de commencer notre conseil municipal, je tiens à saluer mes collègues maires sénégalais qui nous font l'honneur et la joie d'être présents à Redon depuis lundi. Alors, il y a Madiop Biteye, Dame Diop, Chekibra Ndai, Malik Ndiagan et Mamadou Diallo. Et alors, merci de votre présence. Nous nous sommes rencontrés pour quelques-uns d'entre nous il y a quelques mois déjà, de façon assez, on va dire, impromptue. Et puis, nous avions eu un premier échange. J'ai revu Dame qui était revenue en France pour je ne sais plus quelle action, et nous étions rencontrés à nouveau, et nous nous sommes rencontrés, enfin voilà, on a accueilli nos collègues sénégalais pendant 3 jours. Alors, pourquoi cet accueil? Il y a, de part et d'autre, dans les échanges que nous avons eus, une volonté de trouver les modalités d'une coopération nouvelle. Rien n'est fait, rien n'est institué, rien n'est formalisé au moment où je parle, mais il y a cette volonté des deux parties, et nous allons trouver les formes qui autorisent et permettent ce partenariat ou cette coopération que nous appelons de nos voeux. En tout cas, merci de votre présence. Vous pourrez quitter le conseil municipal quand vous voudrez, hein. Je vous l'ai dit, même si nous nous reverrons pour reparler de la suite à venir. Merci. Nous allons pouvoir maintenant... on peut les applaudir si... une coopération, juste quand même, dans des échanges qu'on a avec mes collègues, c'est de nous dire que nous sommes des hommes et des femmes jeunes, qu'une histoire nous précède. Elle a été celle de la colonisation, et que nous sommes des hommes et des femmes jeunes, neufs, et que nous avons, je crois, intérêt à penser des modalités de coopération dans une pleine réciprocité, où nous avons autant à accueillir qu'à donner. Et c'est ce que nous allons essayer de créer ensemble. Voilà. Alors, avant de commencer, je voulais vous informer que la délibération concernant la dénomination de rue, j'ai fait le choix de la retirer. Elle était prête, mais il se trouve que les membres de la minorité n'ont pas été invités à la réunion. Donc la moindre des choses, c'est que, évidemment... les choses se fassent, donc j'aimerais que cette commission se réunisse dans les plus brefs délais pour qu'on puisse représenter cette délibération, j'espère dans les mêmes formes, en juillet prochain. C'est juillet prochain. Je vais désigner, alors il faudrait peut-être changer, un secrétaire de séance. Quelqu'un qui puisse signer rapidement. Eh bien, Jacques, si tu en es d'accord, ça te va? Si l'Assemblée en est d'accord. Alors, Françoise, Louis, Marc, Géraldine, Lionel, Anne-Cécile, Benoît, Karen, Jacques, Maria, André. Alors, Jean-Luc est excusé et donne pouvoir à Lionel, Sylvie, Jean-Marie, Rola est excusée et donne pouvoir à Jacques Carpentier. Michael, Delphine, Stéphane est excusé et donne pouvoir à Jean-Marie Michon. Soizig est va nous rejoindre, mais dans l'attente, elle donne pouvoir à Marc Droguet. Anaïs est absente. Valentin devrait nous rejoindre, a priori. Alain, Martine est excusée et donne pouvoir à Stéphanie Brault. Thomas Maréchal est excusé et donne pouvoir à Loïc Laridon. Loïc, Mangala, Stéphanie et Catherine, vous êtes là. On va pouvoir commencer. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la dernière séance, soit celle du 3 avril dernier? C'est bon? Donc, nous approuvons, s'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal de la séance. Je vous en remercie. Et première chose, donc les décisions municipales. Là aussi, avez-vous des remarques sur les décisions municipales ou pas? Si vous n'en avez pas, nous allons passer. Des remarques, des questions? Non plus? Très bien. Nous passons. Je vais laisser la parole à Géraldine Denigo. Pour un sujet évidemment important, puisque je vais vous proposer d'approuver les nouvelles orientations du projet éducatif local. Et pour ce faire, Géraldine, tu vas nous proposer un PowerPoint, comme il est dit communément. Pour présenter ces orientations. Géraldine, je te donne la parole.
Merci Pascal. Donc, en effet, on va approuver les nouvelles orientations du projet éducatif local. Donc, je fais l'introduction et puis Laetitia vous lira donc le document et puis on passera aux questions diverses ensuite. Hein. Donc, juste pour vous rappeler que depuis 2019, la ville de Redon mène une démarche de co-construction du projet éducatif local à destination des enfants et des jeunes. Préparer les générations futures est une priorité majeure pour la ville de Redon, avec plus de 8000 jeunes scolarisés dans une offre éducative riche, de la maternelle au supérieur, en n'oubliant pas les établissements spécialisés. Redon affirme que l'éducation ne se limite pas à l'école. Elle vise aussi l'épanouissement, la réussite et l'inclusion de chaque enfant et chaque jeune. Le projet éducatif local est la feuille de route collective de tous les acteurs éducatifs, enseignants, familles, jeunes, animateurs, associations, élus, pour agir ensemble au service des 3-25 ans. Pensé comme un outil de lutte contre les inégalités, fondé sur le respect, la solidarité, l'inclusion et la citoyenneté. Accompagné par le cabinet Anater, la ville a évalué l'impact du PEL après 5 ans. Cette évaluation a abouti à une nouvelle orientation générale qui sera de fédérer les actions autour d'une ambition centrale du bien vivre ensemble. Cette ambition contribue à favoriser 4 grands objectifs éducatifs. On y reviendra, je vais juste vous les citer. C'est accompagner les parcours dans une logique collective et citoyenne, prévenir les conduites à risque et promouvoir le bien-être, favoriser l'accès au sport et à la culture et à l'art pour l'émancipation et impliquer les parents dans la dynamique éducative. Pour atteindre ces objectifs, la mise en œuvre opérationnelle repose sur des priorités transversales qui donnent corps aux valeurs du PEL. Des priorités fortes comme l'inclusion, la lutte contre les discriminations, le bien-être, la santé, la confiance en soi, la mixité sociale et un environnement éducatif bienveillant. Voilà les grandes lignes. Je passe la parole à Laetitia.
Merci Géraldine. Bonsoir à toutes et tous. Un petit rappel méthodologique pour vous dire comment nous avons fonctionné. Deux objectifs opérationnels, évaluer évidemment le premier PEL, mesurer la pertinence des ambitions éducatives, la réalisation des actions promues et mesurer le niveau d'appropriation du projet éducatif local par les partenaires, mais pas que. Ah, on ne m'entend pas. et formaliser le nouveau projet éducatif local en ajustant du coup les objectifs éducatifs et opérationnels. Une méthodologie avec une démarche très mobilisatrice auprès de l'ensemble des partenaires. Hein. Le projet éducatif local, c'est une centaine de partenaires. Deux séries de groupes de travail thématique enfance et thématique jeunesse. Et deux enquêtes, une auprès des partenaires, qui a été faite en ligne, et une auprès des jeunes, qui a été faite par les équipes, sur le, notamment au niveau du parc Angers, mais pas que. Il y a eu, comment ? Sous forme de micro-trottoir. Le PL de Redon, c'est un document cadre qui est structuré autour de quatre piliers, les objectifs éducatifs, les contenus opérationnels, des conditions et des principes de mise en œuvre, on y reviendra tout à l'heure, et des modalités de pilotage. Une ambition générale, Géraldine l'a dit, encourager le bien vivre ensemble. Les quatre objectifs éducatifs, on a mis du temps à pouvoir les définir. Ils sont au nombre du coup de quatre, je l'ai dit. Accompagner le parcours de l'enfant et du jeune dans une dimension collective et citoyenne, notamment à travers la transition écologique et le vivre ensemble. Veiller au bien-être des enfants et des jeunes en prévenant les conduites à risque. Promouvoir l'ouverture d'esprit, l'autonomie et l'émancipation en favorisant l'accès au sport, à la culture et à l'art. Et enfin, mobiliser les parents dans la construction des actions. On a repris un exemple de structuration du document concernant les objectifs éducatifs. On aura dans le rapport final les quatre objectifs déclinés de la manière suivante. On reprend l'objectif éducatif, veiller au bien-être des enfants et des jeunes en prévenant les conduites à risque. On définit ce qu'est cet objectif. On a mis les préconisations des acteurs sur cet objectif. Qu'est-ce qui a donné, du coup, les groupes de travail, ce qu'ont donné les groupes de travail sur nous, nos précisions et nos préconisations pour pouvoir atteindre l'objectif. Et des premières pistes de travail évoquées, en l'occurrence sur cet objectif, la sexualité, la nutrition, les addictions, la santé mentale, la sécurité routière, le décrochage scolaire, et il pourrait y en avoir d'autres. Des principes de mise en œuvre du projet éducatif local pour conforter les partenariats et apporter une plus-value au territoire, donner une impulsion à l'action de proximité, autrement dit, comment, en sortant des ateliers, on peut d'ores et déjà reprendre les pistes de travail de manière très opérationnelle, valoriser les partenariats opérationnels, renforcer l'interconnaissance et le partage d'informations, grosso modo, qui fait quoi et avec qui et pour qui, garantir la continuité éducative en matière de mise en œuvre des actions et favoriser l'engagement et la participation citoyenne des jeunes et des parents. Des conditions de réussite pour garantir l'efficience du projet éducatif local, favoriser la transversalité et la complémentarité des politiques municipales, projet sportif municipal, les feuilles de route égalité femmes-hommes, feuilles de route inclusion, handicap, projet éducatif local, comment demain on arrive à être complémentaire avec toutes ces feuilles de route, mettre en cohérence la politique éducative municipale avec celle des partenaires, exemple, organiser la coordination des acteurs au titre du suivi de la mise en œuvre du projet éducatif local, comment on fait du coup pour être complémentaire et comment on ajuste nos actions pour pouvoir aller dans des interstices s'il y en a. Proposer un cadre opérationnel adapté aux besoins et à la demande des enfants, des jeunes et des parents, notamment à travers le lancement d'un budget participatif, et pourquoi pas ouvrir le comité de pilotage aux parents et aux enfants, en tous les cas c'est une préconisation, et porter une stratégie, concertée de communication et d'information. Comment on met en place une plateforme d'échange et d'information. Le projet éducatif local, c'est l'ingénierie de projet associée à des modalités de pilotage, un pilotage politique, avec l'organisation d'un comité de pilotage deux fois par an, un pilotage opérationnel avec l'animation de groupes de travail thématiques où aujourd'hui on ajustera. Est-ce qu'on sera sur des rencontres trois fois par mois, une fois par mois, deux fois par mois? On construira avec l'ensemble des partenaires ce que devra être le pilotage opérationnel. Et une plénière, on s'engage à faire une plénière qui sera un temps de restitution dans l'ensemble des actions et de l'ingénierie associée au projet éducatif local une fois par an. Des annexes au document, les principales actions mises en œuvre sur la ville de Redon. Donc c'est une carte qu'on pourra retrouver dans un document plus global, avec, on pourrait dire, une centaine d'actions aujourd'hui portées par le projet éducatif local. Les principaux enseignements du micro-trottoir, on en parlait tout à l'heure, ce qu'a donné l'enquête auprès des jeunes. Et puis, bien sûr, un retour en image de l'ensemble des groupes de travail qui ont eu lieu pour pouvoir travailler sur la nouvelle structuration du projet éducatif local. C'est bon, Géraldine.
Très bien. Merci, Laetitia. Peut-être juste avant de conclure, je ne sais pas s'il y a des questions, mais vous dire en fait que ce projet éducatif local, c'est vraiment un outil structurant. Il sera évolutif, hein, bien sûr, et collectif. Il garantit la cohérence éducative du territoire et mobilise tous les acteurs pour que chaque enfant puisse réussir à trouver sa place dans la société. Avant de passer aux remerciements,
Oui, je vais peut-être dire un mot. Merci. Bonsoir à tous. Merci pour cette présentation. Donc, on a pu participer à ce compte-rendu et puis à cette proposition de nouveau PEL. Et on a pu effectivement y ajouter des points, dont notamment le fait d'ajouter le sujet de la transition énergétique dans l'accompagnement du parcours de l'enfant, dans sa dimension collective et citoyenne. Donc on est satisfait de ces ajouts. On se pose deux questions, parce que c'est cité effectivement dans les actions qui sont proposées. S'engage-t-on à mettre en place, dès que possible, un conseil municipal des jeunes ? Et ouvre-t-on dès à présent, parce que ça nous semble effectivement une très bonne idée, le comité de pilotage aux parents, ainsi qu'à des représentants des jeunes. Vous le savez, on l'a évoqué, il y a effectivement eu des enquêtes menées auprès des jeunes, mais par contre, des jeunes n'ont pas pu participer aux sessions de compte-rendu en fait du PEL et de la construction de ce nouveau PEL. Plus des jeunes pourront intégrer ce processus, plus ça nous semblera pertinent. Voilà. Nous vous remercions.
Oui, donc en effet, l'idée c'est vraiment d'élargir le COPIL. Il y aura une première année d'évaluation et puis et l'idée c'est de que les parents et les jeunes intègrent le COPIL. Ça c'est écrit. Après, pour le conseil municipal des jeunes, c'est la première fois qu'on me pose la question. Des jeunes, ouais.
En tout cas, ça fait bien partie des éléments, des axes cités dans le rapport.
Oui, c'est ça. Alors, nous, on était plus sur un parcours citoyen. C'était l'idée qui était ressortie lors des ateliers, c'est-à-dire comment on peut, du CP à la terminale, avoir un parcours citoyen. Mais voilà, après, ça sera dans les commissions de travail, qu'on pourra faire évoluer ce document, hein, pas de souci.
Je me permets de réagir, mais le conseil municipal des enfants, c'est une bonne chose, mais on touche des primaires, hein, CM1, CM2. À mon avis, si on devait choisir entre les deux, peut-être ça serait plus intéressant de partir vers un conseil municipal des jeunes en imaginant que des enfants, j'en sais rien, 4e, 3e, seconde, pourraient peut-être être plus en mesure de porter des projets plus aboutis, bon, sachant que le conseil municipal des enfants, il tourne bien dans plusieurs collectivités. Ce qui n'est pas évident, ça je pense que vous le reconnaîtrez avec moi, c'est que c'est la posture des enfants qui sont en CM1, CM2, leur faire comprendre qu'ils sont susceptibles de faire un retour à leurs camarades de ce qu'ils ont vu en CME et que eux-mêmes ils sont susceptibles d'interroger leurs camarades avant de venir en CME pour porter un peu une parole représentant celle de leur établissement, c'est évidemment encore un peu compliqué à ces âges-là. On peut imaginer qu'à l'adolescence on aura peut-être des choses plus intéressantes.
Mmh. Non, mais je suis assez d'accord avec cette remarque. Il faut y songer, y travailler. Ce que vous dites de la des obligations dévolues à la représentation vis-à-vis d'une assemblée d'élèves, effectivement, c'est un sujet. L'une des élèves du CME avec laquelle je déjeunais ce midi, là, avec nos amis sénégalais, avec les bénévoles et quelques bénéficiaires des Restos du Cœur, me le disait. Elle me disait, je suis la seule de mon école. Et avec ces mots, elle me disait sa difficulté à revenir vers un corps électoral qui n'avait pas été très mobilisé, en réalité. Voilà. Bon. Donc ce sont des sujets, effectivement. L'intérêt serait peut-être de maintenir, mais après ce sont des charges et des organisations, mais les deux, parce que le CME tel qu'il existe aujourd'hui, les enfants, ils sont, vous avez pu le remarquer, Loïc et ceux qui ont assisté aux travaux et aux séances, il y a beaucoup de spontanéité et j'allais dire que c'est le début de la conscientisation à des sujets qui dépassent l'école, des sujets qui nous intéressent nous dans notre représentation de la commune. Voilà, c'est à penser.
Moi, plus facilement mobilisable aussi, quoi. C'est vrai que.
C'est vrai. Bon, tout ça est à penser, à envisager.
On peut y réfléchir, bien sûr.
Ouais. Et à essayer de mettre ça en place. D'autres questions, remarques ? Je vais vous proposer d'approuver les nouvelles orientations du plan éducatif local. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Pas d'abstention, pas de vote contre, je vous remercie. Tu voulais...
Non, je voulais juste, pour finir, remercier le service enfant-jeunesse, les partenaires et toutes les personnes qui ont permis d'écrire ce document. Voilà, merci.
Merci beaucoup, et moi je te remercie, ma chère Géraldine, et ainsi que Laetitia et Muriel,
bien sûr,
qui sont derrière moi. Et comme tu le disais, toutes celles et ceux qui ont contribué à l'écriture de ce projet ou cette nouvelle mouture du plan éducatif local. Très bien. Géraldine, tu as toujours la parole.
Oui.
Et tu vas nous parler de la reconduction des modules d'enseignement artistique, culturel et patrimonial.
Voilà, donc une délibération qui existe déjà depuis 2021. Donc, je ne vais pas vous lire la délibération, mais je vais vous en faire un petit résumé. Donc, depuis 2021, la ville de Redon propose aux écoles élémentaires publiques, privées et publiques et privées des modules d'enseignement artistique, culturel et patrimonial. Dans le cadre de son projet éducatif local, ces modules visent à faire découvrir aux élèves le patrimoine, la culture et l'art du territoire du pays de Redon, c'est important, en partenariat avec les intervenants qualifiés. L'objectif, c'est de soutenir financièrement les projets scolaires, et c'est valoriser l'offre culturelle du territoire. Le fonctionnement, c'est des modules majoritairement destinés aux classes élémentaires. C'est une intervention organisée sous forme de parcours d'au moins 5 séances animées par des professionnels. Et c'est des projets qui sont validés par l'inspection nationale de l'éducation et ou soit le chef d'établissement pour les écoles privées, puis ensuite la ville. Juste pour vous faire un petit retour sur ce qui a été fait cette année. On a eu l'école Anne Sylvestre, Henri Matisse et Charlie Chaplin qui ont participé. Ça a été des projets menés avec le groupement culturel breton et l'atelier Vagabond. Alors, beaucoup de projets avec le groupement parce que c'est les 50 ans de la BOG. Donc, ils sont intervenus dans les écoles pour un projet artistique et musical en soutien des 50 ans de la Bogue, un travail autour des contes traditionnels bretons, une sensibilisation au chant enfant d'IPI, module chant et danse bretonne, et mise en place d'un parcours culturel dans Redon pour imaginer le port de demain. Voilà. Donc, sur une enveloppe, il a été dépensé... Alors, sur 18 modules, il a été fait 9 modules. Et il y a eu un budget de 2 700 € de dépensés sur 5 140 €. Voilà. Donc, il reste jusqu'à la fin de l'année 9 modules à réaliser pour les écoles qui le souhaitent. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et les enseignants sont plutôt demandeurs.
Des questions, remarques sur... Très bien, je vais vous proposer... Non, tu voulais ajouter quelque chose? C'est bon. On va voter. Qui est pour? Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie de ces votes unanimes. Ma chère Maria. Non, c'est fait exprès. Mise à jour de la feuille de route bien vieillir à Redon. Ma chère Maria.
Merci Pascal. Donc, je vais vous présenter ce soir le bilan de la feuille de route bien vieillir à Redon. Donc, chaque année, un bilan des actions effectuées et réalisées. La mise à jour et le bilan seront présentés ce soir, en fait. Donc, le procédé, c'est une annexe, un bilan des actions engagées sur une année, classement des actions par thématique, inscrit dans la feuille de route. Donc, nous avons enrichi notre feuille de route avec des chiffres et des éléments d'actualité qui ont été ajoutés. Ils sont facilement repérables. Disons qu'en bleu, c'est l'actualisation de la feuille de route et en jaune-orange, les chiffres mis à jour. Alors, les éléments ajoutés sont les suivants. La loi Bien vieillir du 8 avril 2024. La loi instaure une série de mesures visant à répondre aux besoins des personnes âgées, prévention de la perte d'autonomie, création d'un service public départemental de l'autonomie, le SPDA, conférence nationale de l'autonomie tous les 3 ans et un programme de dépistage précoce pour les 60 ans et plus. La lutte aussi contre l'isolement social, avec un meilleur accès des services sociaux aux données locales pour identifier les personnes isolées, donc c'est une expérimentation de l'accueil de nuit dans les EHPAD. Amélioration de la vie en établissement, le droit d'être accompagné par un animal de compagnie, le renforcement du droit de visite, le regroupement des EHPAD publics en groupements territoriaux de coopération sociale et médico-sociale dans le GTSMS, la lutte aussi contre la maltraitance, avec un renforcement du dispositif d'alerte en cas de maltraitance, contrôle des antécédents judiciaires des personnels au sein des établissements et services médico-sociaux, donc c'est le SMS. Donc, cette feuille de route, alors tout d'abord, l'organisation d'une journée « Faites-vous plaisir, senior ». C'est une journée qui a été proposée aux retraités, avec des conférences et des ateliers sur les thèmes de l'activité physique, la nutrition et la vie affective, en partenariat avec le comité d'action sociale Agir Arco Bretagne. La finalité, c'était pour promouvoir le bien vieillir, une entrée en retraite réussie, donner les clés d'un mode de vie adapté à son âge, à ses besoins, à ses envies. Donc nous avions eu des conférences en matinée qui ont regroupé 73 personnes. C'était bien dans ses baskets, activité physique adaptée, animée par l'OETS. Bien dans l'assiette, nutrition animée par Céline Douard, diététicienne. Bien sous la couette, vie affective animée par Carole Laurençon, thérapeute relationnelle et conseillère conjugale et familiale. Et les après-midi, C'était des ateliers forums avec qui réunissaient 41 personnes, avec des cours de cuisine, des groupes de parole sur la vie affective, des cours d'activité physique adaptée en plein air. Un escape game. Non, je ne me trompe pas.
Ateliers de prévention.
Ah oui, c'est l'autre côté, excusez-moi. Des ateliers de prévention financés par la conférence des financeurs. Dans le cadre du programme coordonné d'action collective, prévention santé et accès aux droits pour les retraités, mis en place par le CLIC, 3 ateliers financés par l'association pour bien vieillir en Bretagne et la conférence des financeurs. Un atelier activité physique adaptée avec Kinéouest Prévention, 12 séances d'une heure, avec un groupe de 8 à 14 personnes. Le démarrage s'est passé le 14 janvier dernier. Un atelier numérique avec les mulots, 10 séances, avec un groupe de 10 personnes, démarrage le 17 janvier. Un atelier bien vivre sa retraite, avec l'association Santé, Éducation et Prévention sur le territoire, l'ACEPT. 14 personnes ont participé aux ateliers de octobre à décembre. Donc j'arrive à l'escape game, les clés pour rester en forme proposées aux retraités. Le jeudi 3 octobre 2024, nous avons organisé un escape game, les clés du bien vieillir, conçu par Dina Mitt. Une animation ludique destinée aux retraités en partenariat avec Malakoff Humanis et le CLIC. Sensibiliser sur les clés du bien-être au quotidien, tout en s'amusant à travers des formes variées, Scrabble, énigmes, slam, etc. Les épreuves concernent les thématiques du bien vieillir, l'alimentation, l'activité physique adaptée, l'aménagement du lieu de vie, la mémoire, le sommeil, les liens sociaux. 40 participants. Un temps fort de lancement des ateliers de prévention et donc l'inscription se faisait sur place. Et l'équipe gagnante est repartie avec un panier garni. Alors, 2 thés dansants qui ont été inclus dans la saison culturelle du Carré Neuf. Ce sont 2 rendez-vous annuels qui permettent aux aînés de se réunir le temps d'un après-midi au Carré Neuf. Donc, nous avons des partenaires, le Club des aînés, le Club de la Housselle, le Club de l'Amitié, le Club des aînés de Bellevue-Patonne, ainsi qu'Expression Femmes, les Pâtes des Charmis qui nous fournit de très bons gâteaux pour le goûter, le Centre social Confluence qui fait le lien avec ses adhérents. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était intégré dans le programme du Carré Neuf. En 2024, 2 thés dansants sont organisés, jeudi 25 avril et le mercredi 2 octobre. Les petits-enfants sont également invités à participer. Nous avons eu beaucoup de monde, je crois que c'est 130 personnes, il me semble. C'était pas mal, le deuxième. Monsieur le maire se moque un peu, mais c'est pas grave. Alors, l'animation, il était une fois Redon. Animation sur le patrimoine redonnais, ouvert aux redonnais de 60 ans et plus, et minima sociaux. 3 rencontres sont organisées dans l'année. Donc le bilan de l'année 2024, le mercredi 24 janvier, les fêtes d'autrefois, 22 participants. L'occasion d'évoquer les marchés d'antan ou les souvenirs et anecdotes des aînés présents. Le mercredi 22 mai, le 80e anniversaire de la Libération, 12 participants. Parenthèse rapide sur la guerre 39-45, le débarquement du 6 juin 44 et la libération des villes, dont Redon, pour finir par la reconstruction et les 30 glorieuses. Le mercredi 9 octobre, nous avons visité l'ancienne Banque de France, 18 participants. Alors, dans le cadre des journées du patrimoine, Coralie a animé une visite de l'ancienne Banque de France et des archives municipales de l'espace Jean Jaurès. Et les personnes qui étaient présentes étaient vraiment très, très contentes de cette visite. Ils ont découvert beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas, Redon. Alors, je crois que j'arrive au lancement de la cohabitation intergénérationnelle. Donc le lancement de la communication en avril 2024. Il faut peut-être vous expliquer ce que c'est la colocation intergénérationnelle. C'est une personne âgée qui reçoit chez elle un jeune entre 18 et 25 ans. Soit ce jeune pour des loyers modiques, soit ce jeune est de la personne âgée et donc n'a pas beaucoup d'argent à dépenser. Et soit il vit dans un studio à côté, il est très indépendant. Et pour l'instant, je sais qu'on a deux, hein, Nadège qui est là, elle va me dire, nous avons deux logés.
Deux binômes en cours et on a réussi
un autre troisième qui se présente.
On en a déjà constitué, un troisième.
Oui, j'ai vu. Alors le lancement était fait en avril 2024, donc une plaquette d'information, des affiches à destination des jeunes, et l'autre à destination des personnes âgées. Nous avons diffusé dans la presse, campagne d'affichage, mailing, Redon Mag, organisation d'un café découverte sur la cohabitation intergénérationnelle le mardi 16 avril. Une trentaine de personnes étaient présentes, dont des professionnels, maisons d'habitat, MAPAR, CDAS, hôpital. Le bilan de fin 2024, 13 personnes âgées intéressés par le dispositif, dont 9 redonnais et 4 personnes hors Redon. 10 personnes en recherche d'un logement sont inscrites pour être recontactées, dont 8 étudiantes, 2 hommes âgés de 31 ans et 54 ans. Donc on a dit un binôme, on arrive à notre troisième binôme bientôt. Voilà, pour la cohabitation intergénérationnelle. Excusez-moi, je...
Installation des bancs.
Non, des ateliers prévention, non, tout ça.
Installation des bancs.
Installation des bancs adaptés.
Oh là là. Excusez-moi. J'ai beaucoup de choses à vous dire, c'est pour ça. Projet d'installation des bancs adaptés. Alors, la réalisation de ce projet s'est faite en concertation avec les habitants afin de s'assurer que le mobilier urbain et leur implantation répondent bien à leurs attentes. En février 2024, 3 déambulations afin de déterminer les emplacements de bancs en compagnie des habitants, des représentants de la ville et du CCAS, élus et techniciens. Donc nous avons fait le centre-ville, le quartier Bellevue, le quartier de la Housset et l'Enroi Nord. Ensuite, on a eu un travail sur le plan d'installation du mobilier de mars à mai 2024. Le groupe de travail priorise ensuite les demandes selon plusieurs critères. La quantité des demandes, la pertinence, l'accessibilité, la proximité avec d'autres bancs, etc. Le plan a été retravaillé plusieurs fois avec Monsieur le maire et les élus avant d'être validé. Alors, l'installation des bancs, de mai à septembre 2024, au départ, le projet comprenait l'installation de 20 bancs adaptés, et après ce temps de travail, il a été décidé d'installer 25 bancs afin de répondre au mieux aux demandes des habitants. Et les retours qu'on a, en fait, sont bons. Les gens sont contents, mais quand je vois souvent des personnes sur les bancs, ce ne sont pas forcément des personnes âgées, ce sont aussi des étudiants, enfin, ils sont utilisés quand même, je trouve. Et on est très contents. Donc je remercie tout d'abord Nadège et Tiffaine de m'accompagner dans tous ces projets pour les personnes âgées. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.
Merci Maria pour l'énergie que tu déploies sur ta compétence, enfin, dans ta compétence, et l'ensemble de ces actions qui sont des actions très concrètes. Et je ne m'en moquais pas.
Non, tu peux
rire. Je ne me moque pas de ça. C'est très important. Nous comparions avec nos collègues sénégalais, nos pyramides démographiques. Les moins de 34 ans au Sénégal, 0-34 ans, enfin, c'est 77% de la population. D'accord ? Nous, alors c'est pas l'inverse, hein, total inverse, mais vous connaissez la forme de notre pyramide, qui n'est plus vraiment une pyramide, avec une population de plus de 65 ans qui croît. Et toutes ces actions en direction de nos aînés sont plus que les bienvenues, elles sont nécessaires. Par bien des aspects. Il y a encore à poursuivre le travail, à améliorer les dispositifs, tous les actions de convivialité aussi, indispensables quand on se sent par ailleurs non seulement âgé, mais isolé. Ça, c'est un vrai sujet. C'est dans notre projet social que d'aller vers les aînés qui sont... ou qui peuvent se sentir isolés, loin d'un peu tout, et toutes les actions que tu, avec les services que tu organises, et même parfois animes, ma chère Maria, vont, comme je le disais, dans le bon sens. Merci à toi. Pas de délibération, c'était juste de présenter la mise à jour, bilan de la feuille de route. Bien vivre à Redon. Merci. Benoît, je te laisse maintenant la parole.
Bonsoir à tous. Donc, la première délibération, elle a pour objectif de régulariser la présence des élus du conseil municipal à l'OTS suite à sa fusion. Ça a traîné parce que, un, on a demandé... de nombreuses modifications et des allers-retours parce que ça ne nous convenait pas la feuille de route qu'ils nous proposaient. Historiquement, effectivement, l'OMS est une association loi 1920, mais elle y a depuis toujours, comme l'OMCL d'ailleurs, un lien plus qu'étroit avec la ville de Redon, et il nous paraissait essentiel qu'on conserve des représentants au sein de cet office qui décident de décisions très importantes pour le sport sur la ville. Donc on a fait de nombreux allers-retours. Donc les statuts ont fait ressortir deux types de collèges, les collèges représentants et les collèges fondateurs. Alors ça, c'était essentiel, c'est pas un petit détail, mais la notion de collège fondateur, c'est que dans tous les cas, l'élu en charge des sports est membre de droit de l'OTS. Ça, c'était très important. Et après, avoir des collèges représentants où on puisse effectivement avoir un collège d'élus du conseil municipal qui puisse siéger aussi à l'OTS. Après, on avait... Donc ça a été bien indiqué au statut. Et après, il y avait le problème qu'au tout départ, les collèges de représentants, c'était une voix par collège. Et nous, on ne voulait pas que ça soit une voix par collège, mais une voix par représentant. Donc aujourd'hui, ces éléments-là ont été recadrés. Alors, vous ne retrouvez pas cette idée de une voix par représentant plutôt que par collège, puisque ça ne fait pas partie des statuts, mais d'une modification qui aura lieu au niveau du règlement intérieur. Donc j'ai bien le document de l'Office territorial des sports. Modification du règlement intérieur de l'OTS nécessaire, collège représentant, modifier une voix par instance en une voix par représentant. Donc voilà, ça faisait l'objet du dernier conseil d'administration qu'on a fait ensemble. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de désigner les membres représentants du conseil municipal à l'OTS. Donc en tant qu'élu en charge des sports, je suis... dans le collège fondateur, mais après, donc, on a trois élus de la majorité à désigner et un élu de la minorité. Donc, pour la majorité, si je ne me trompe pas, c'est Géraldine Denigo, Rola Abifadel et Mathieu Jouan. Et, tu vois, je suis en train de parler de l'OTS, ça, Michael Jouan. Non, c'est un lapsus révélateur. Faites pour ceux qui ne le savent pas, Mathieu Jouan est président de l'OTS. Et pour la minorité. Ok. Donc, si tout le monde en est d'accord, vu le Conseil général des collectivités territoriales, vu la délibération, vu les statuts de l'Office, considérant qu'il convient de désigner les représentants de la ville à l'Office territorial des sports, ayant étendu l'exposé de son rapporteur, désigne les représentants de la ville au sein de l'OTS comme suit. Donc, Éloï de la majorité, Géraldine Denigo, Roba Bifadel, Michael Jouan et Mangala Tual. C'est ça? Bon. Qui... Ah bon.
Pardon, David. Construction et exploitation de terrains de paddle sur le site du complexe sportif Joseph Ricordel, signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droit réel. Benoît.
Donc, très très rapidement, pour faire une petite présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le paddle tennis. Donc, le paddle tennis est un sport de raquette mexicain à l'origine, qui s'est très rapidement développé en Espagne, puisque l'inventeur du padel tennis avait une propriété en Espagne. Il a créé les premiers terrains. Dans mes souvenirs, ça date des années 70. Et moi, pour mes souvenirs d'Espagne, effectivement, je voyais ce type de terrain, un peu de mini-tennis. C'est un sport qui a évolué de façon très forte. Et c'est un mélange entre... Si je peux résumer, le squash et le tennis. Ça joue sur des petits terrains avec des murs en double. C'est un peu moins physique que le tennis, beaucoup plus ludique. Au niveau, c'est un des rares sports où on peut jouer en couple mixte, où il y a vraiment une représentation homme-femme sans, entre guillemets, différentiel. Donc ça se passe, c'est un sport qui aujourd'hui évolue de façon très très forte. Alors j'étais l'autre jour avec le vice-président de la Fédération Française de Tennis, puisque le paddle tennis fait partie de la Fédération Française de Tennis. Et aujourd'hui, c'est vraiment le sport qui est en train de supplanter le tennis, en tout cas dans le nombre de pratiquants, et c'est ce qui tire la Fédération française. Pour vous donner quelques chiffres, parce que c'est intéressant d'en avoir, et de vous dire pourquoi Redon fait un paddle tennis, parce que c'est quand même une demande des citoyens, de nos habitants. En 2018, il y avait 80 000 pratiquants de paddle. En 2024, il y en a 600 000. L'évolution des infrastructures en 2014, il y a 110 terrains et 48 clubs. Aujourd'hui, il y a plus de 3000 terrains avec 1000 nouvelles installations construites depuis 2024. Donc, les licenciés, c'est pareil. 2015, on a 4000 licenciés. 2024, on a 65 000 licenciés. Donc par rapport à l'année d'avant, c'est 91% de plus. Il faut se rendre compte de la croissance de cette activité. Les facteurs, ce que je disais tout à l'heure, l'accessibilité. Alors moi qui suis un ancien joueur de tennis, le tennis, il y a quelques temps et un peu de technique pour arriver à s'amuser. Le padel, dès que vous prenez une raquette, vous pouvez vous amuser comme le badminton très facilement sans avoir forcément besoin d'une grande technique. Je trouve que l'aspect du double génère aussi un côté très convivial à l'activité, fatigue aussi un peu moins les articulations et le physique pour les gens qui commencent un peu à vieillir en âge comme moi. Et ce qui est en train de doper aussi, le soutien institutionnel de la Fédération française de tennis qui met des moyens. Et la dernière chose, c'est que c'est un sport qui ne repose pas exclusivement sur la volonté des collectivités locales, puisqu'aujourd'hui la majorité des terrains de paddle sont soit faits sous un mode de financement privé, alors soit complètement privé, soit pour beaucoup le système qu'on a choisi, qui est la convention d'occupation temporaire du domaine public, Donc, j'ai pris le temps de regarder un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt clôturé. Là, par exemple, pour vous donner, depuis le début de l'année, on a eu Uzès, on a eu Couzex, on a eu Bois-Colombes, on a eu La Flèche, on a eu Blanc-Ménil, et on a eu la commune de Videbar, Villers-les-Nancy. On a même, nous, été contactés par une collectivité pour voir comment on avait écrit cette convention temporaire d'occupation d'une domaine publique, parce que c'est vrai que c'est des nouveautés pour nous au sein des collectivités. Je pense qu'on le verra. Dans ce que je consultais, c'était même intéressant. Il y a même des communes qui sont allées plus loin avec des terrains de basket, sous ce type de choses, des city-stades, avec des espaces de restauration. Voilà. On voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, les collectivités sont face à des choix de se recentrer sur ces fonctions, entre guillemets, régaliennes. Et donc, on doit peut-être laisser sur certaines activités ludiques la part au privé pour le faire. Donc je trouve que c'est un gagnant-gagnant. Après, je vais venir sur le marché en lui-même. Après, ce qui était intéressant aussi, parce qu'il a pu nous être reproché que l'appel à manifestation d'intérêt était sur une période courte, je suis allé regarder les autres appels à manifestation d'intérêt des autres villes. Entre la date du parution et la date de clôture, on avait entre 3 semaines et 1 mois, ce qui correspond parfaitement à celui que nous avons fait. Voilà. Donc pour sur le point de vue général du PADEL, maintenant on va rentrer sur le projet et la genèse. Donc c'est un projet qui couvre depuis très longtemps à Redon. On avait été sollicité par des porteurs de projets. La création de ces terrains, il n'y avait pas du tout de montage envisagé au départ. Solliciter des questions et notamment vis-à-vis du tennis et de l'association du tennis. Donc la première chose qui a été faite, évidemment, c'est d'échanger avec le club de tennis s'ils y voyaient une quelconque problème. Non, ils ont plutôt été dans l'intérêt tout de suite parce que ils ont beaucoup de pratiquants de tennis qui pratiquent aussi le padel et qui aujourd'hui vont à Bru, à Vannes ou à Nantes pratiquer. Et que les pratiquants du padel peuvent devenir des pratiquants de tennis et inversement. Donc il y a une vraie... déjà, ils appartiennent à la même fédération. Donc c'est comme si on se disait on fait pas de BMX parce qu'on a déjà du VTT. Je pense que les choses sont plutôt complémentaires que concurrentes. Donc voilà dans l'état d'esprit. Après, évidemment, on s'est interrogé sur la question associative et comment on pourra développer un club de padel, notamment à l'intention des jeunes. Donc ça, quelque part, la mairie ne le décrète pas, le choix de créer une association. En tout état de cause, ça fait partie des volontés du tennis. On voit que les fédérations poussent, donc ça aura certainement du sens de le faire. Et pourquoi pas même, on en a parlé, d'envisager que des modules paddle-tennis soient intégrés dans les modules sportifs. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui est de ce qui nous concerne. Donc, comme je le disais précédemment, la procédure a fait l'objet d'une publicité suite à manifestation d'intérêt spontané pour la construction de terrains de paddle qui a été publiée sur Ouest France. Du 9 avril au 30 avril. Aucun autre porteur de projet ne s'est manifesté à ce moment-là. Donc il faut savoir que pour une telle publicité, il n'y a pas de délai réglementaire. De ce que j'ai regardé des autres collectivités, on était entre 3 semaines et 1 mois. Donc cohérent par rapport à ce qui se fait ailleurs. Donc le projet, c'est la construction. Alors on peut peut-être le projeter. Est-ce que tout le monde... Alors, j'en ai tellement parlé de ce projet que je pense que certains ont... Alors, ça a traîné aussi parce qu'on se disait avec David, c'était un peu une nouveauté, on apprend, on sera meilleur les prochaines fois. Mais voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit où c'est quand je présente le plan? Donc, on est devant le terrain de tennis actuel de Redon Tennis sur le parking actuel... qui doit, parce que ça c'était aussi sujet à débat et discussion, qui doit être utilisé, je pense, une fois par an quand il y a une grosse manifestation sportive. Mais avec tous les parkings qu'on a autour, on n'aura pas de problème de parking dans le temps. Construction d'un bâtiment sportif, donc 3 terrains de padel couverts, indoor avec vestiaire et douche, donc surface de 1825 mètres carrés, terrain, stationnement, donc à l'endroit dont on a parlé. Si le projet de la phase 1 connaît un succès, parce que je ne doute pas, mais je ne suis pas médium, on aura potentiellement la création de 3 terrains de padel extérieurs. Alors, sur la durée, entre guillemets, je dirais 3-5 ans, mais le porteur de projet, s'il fait le choix d'en faire 3 autres, il a plutôt intérêt à ce que ce soit fait dans une durée courte, parce que ça ne prolongera pas d'autant sa convention d'occupation du domaine public, qui est de 18 ans. Donc s'il fait qu'au bout de 15 ans, il aura 3 ans d'exploitation. Parce que pour que tout le monde comprenne bien, la convention d'occupation du domaine public, on signe avec un exploitant. Pour ceux qui le connaissent plus, ça a la couleur, c'est comme le Canada Dry. Ça a la couleur du bail emphytéotique, mais c'est pas un bail emphytéotique, c'est convention d'occupation du domaine public, c'est la même chose. On se rapproche, mais voilà. Juridiquement, c'est le montage que nous a conseillé notre juriste. Donc on a une convention d'occupation du domaine public, moyennant une redevance annuelle de 360 euros. Donc c'est un montant qu'on a validé par France Domaine. On loue un bout de parking, la réalité c'est ça. Et au bout de 18 ans, la mairie récupère l'intégralité du bâtiment pour en faire soit éventuellement une nouvelle exploitation, soit autre chose. En tout état de cause, ça sera pour la collectivité. Aujourd'hui, j'essaye de répondre aux questions que vous pourriez me poser. Ce qui est important, c'est effectivement dans le cadre de la démolition. On a bien inclus dans la convention que si les bâtiments sont dans un état qui ne soit plus conforme, voilà, on pourra demander la démolition à la charge de l'exploitant du bâtiment. Voilà. Mais entre nous soit dit, je vois mal un exploitant qui a besoin de rentrer des recettes pour exploiter son terrain qu'il rendrait inexploitable. Voilà. C'est pareil, la collectivité, en cas de faillite, dépôt de bilan, récupère le bien, moyennant le versement d'un calcul qui est sans indemnité. Oui, pour ça. C'est pour motif d'intérêt général. Pour motif d'intérêt général, c'est-à-dire que la collectivité déciderait de reprendre le terrain avant la fin des 18 ans. Il y a une indemnité qui a été précisée, qui a pour objectif de couvrir les frais qui ont été engagés, si je résume, par les propriétaires privés de leur côté. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Durée de l'amortissement. Pas de monopole pour les porteurs de projets, ça c'est important. C'est pas parce que il y a un projet que la ville ne pourrait pas en faire un autre avec d'autres porteurs de projets. Ils ont aucune exclusivité. Au terme de la convention, quel qu'en soit le motif, bâtiments, équipements sont remis à la ville. Comme je le disais, s'ils sont en mauvais état ou inexploitables, la ville peut exiger leur démolition. Possibilité de résilier la convention sans indemnité, c'est ce que disait David et c'est très important pour les exploitants en cas de dissolution, de liquidation judiciaire de la société. C'est pas ce que je leur souhaite, mais voilà. En cas de résiliation pour motif d'intérêt général, là, et ça paraît somme toute logique, c'est nous qui décidons de le reprendre pour motif d'intérêt général, on leur verse une indemnité qui est calculée sur la valeur nette comptable des investissements au jour de la réalisation. Voilà. Je sais pas, je pense que j'ai essayé de répondre à la majorité des questions. Je pense que c'est un sujet qu'on avait beaucoup évoqué. Si je résume très rapidement les choses qui sont mon avis en quelques mots. Aujourd'hui, c'est une demande, et il suffit de voir la croissance de l'activité forte de nos citoyens. Aujourd'hui, c'est un investissement qu'on pourrait chiffrer, alors j'ai quand même creusé un peu, entre 6 et 700 000 euros. On peut être sûr que la collectivité n'a pas les moyens de le financer. Le club de tennis, je les ai quand même sollicités, n'ont pas les moyens de le financer non plus. Après, est-ce qu'on se dit, ben, c'est pas public, donc on ne donne pas ce type d'activité à nos citoyens alors qu'ils en sont en demande. Je remarque que la majorité des communes ont fait le même choix que nous, c'est-à-dire une convention temporaire d'occupation du domaine public. Donc je pense que c'est le bon choix. Voilà. Et ça permettra aussi pour notre jeunesse, je pense aussi au campus industrie qui arrive. Techniquement, nos étudiants, va falloir leur offrir un peu de loisirs, même s'ils doivent travailler beaucoup, je regarde Jacques. Et on sait que ce type d'activité, c'est aussi un facteur d'attractivité et le fait qu'ils se sentent bien sur leur territoire. Donc, je suis heureux que des porteurs de projets se manifestent pour un tel projet. On est, voilà, quelque part en plus... cerise sur le gâteau, dans 18 ans, on récupérera un bâtiment en bon état. Il suffit de regarder, si vous allez à Ricordel, l'état de la salle de sport depuis l'origine. Elle est encore en très bon état. Donc imaginez les terrains de paddle dans 18 ans, où on pourra, qui sait, oui, qui sera à ce moment-là, faire des nouveaux terrains, exploiter différemment. Donc je pense que c'est quelque part aussi une opportunité pour la ville sur un terrain de parking qu'on exploitait quand même qu'une fois par an. Voilà. Voilà le résumé. J'espère avoir été explicite. S'il y a des questions, peut-être. Voilà.
Merci Benoît pour ton exposé. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Loïc.
Oui. Oui, je vous remercie merci Benoît pour cette présentation complète. Il me semble, je ne sais pas si tu as cité le cas des associations, mais parce que nous, un des points, alors effectivement, il y a plusieurs points qu'on citait, il y a eu pas mal de réponses aux points qui avaient été cités, c'était notamment en cas de démolition, donc maintenant la convention le traite. La question des indemnités, dont pas d'indemnité en dehors d'un motif d'intérêt général, bon, ok. On voit que le fait d'avoir été interrogatif au démarrage du projet sur la convention à mettre en place et à interroger le bail initialement proposé était plutôt positif, puisque effectivement maintenant on aboutit à une convention d'occupation temporaire du domaine public qui semble effectivement complètement sécurisée. Le fait qu'il y ait d'autres communes qui nous posent la question, c'est plutôt positif. La question qui nous chagrinait toujours, c'était le fait qu'on puisse en fait bénéficier de quelques heures ou quelques après-midi par mois, par semaine, je sais pas, pour les écoles, pour que les écoles aient accès gratuitement à ces terrains. C'était un des points parce que effectivement, c'est un investissement par un partenaire privé qui prend le risque. Nous, on prend aussi un risque. Alors même si on peut considérer que l'appel à manifestation d'intérêt a été suffisamment long, on reconnaîtra que 3 semaines pour proposer un projet sur un terrain de ce type-là pour des gens qui découvrent, c'est un peu court. Enfin, je pense que si on voulait vraiment avoir différents projets, il aurait fallu qu'on ait au moins 2 mois. Enfin, après, j'entends que d'autres communes font le même choix, mais c'est probablement parce que elles aussi avaient probablement une petite idée derrière la tête en faisant leurs appels à manifestation d'intérêt. Mais ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, on peut raisonnablement penser qu'on aurait eu peut-être d'autres choses si l'AMI avait été plus long. Mais en tout cas, encore une fois, ce qui nous pose le plus question, c'est le fait qu'on mette à disposition un terrain public, pour une activité privée. On sait que le club de tennis est porteur et intéressé par cette démarche, donc c'est pour ça qu'au début on l'a suivi avec intérêt, mais on trouve ça raisonnable aussi d'avoir en face de ça un accès privilégié de ces terrains gratuitement pour les élèves de Redon.
Alors, je vais te répondre parce que c'est véritablement une des premières questions que j'ai posées aux porteurs de projet, parce que je suis attaché notamment au module. Et je pense que si les élèves doivent faire la découverte du paddle, ça se fera au travers des modules. Par contre, ce qui ne va pas se décréter, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas la ville. Il faut qu'il y ait une association. Aujourd'hui, comment ça fonctionne, les modules? C'est une association d'une activité physique. Jusqu'à preuve du contraire, la ville n'a pas d'enseignant de paddle dans la... Peut-être que je ne l'ai pas vu, mais je pense qu'on n'en a pas dans nos équipes de techniciens, peut-être David. Donc, il faut qu'il y ait une association qui se crée. C'est la première des choses. C'est-à-dire que rien n'empêche une association d'avoir accès, enfin, de fonctionner dans une infrastructure privée. Moi, je l'ai vécu dans de la corpo, comme plein d'autres, j'imagine. Maintenant, moi, ce que j'ai échangé avec le porteur de projet et le club de tennis, et s'ils sont pas trop idiots, comment t'attires des gens à un moment à venir pratiquer? C'est qu'à un moment, il va falloir qu'il y ait des jeunes qui pratiquent, mais les associations, finalement, c'est à but non lucratif, mais les modules, un des objectifs des modules, c'est aussi que l'année d'après, il y ait des licenciés qui s'inscrivent. Donc, l'idée, mais je pense que ça sera certainement l'objet du club de tennis, c'est qu'ils discutent avec et les discussions, on les a déjà eues en off, mais tant que le projet n'est pas sorti, c'est que le président du club de tennis discute avec le président, le porteur de projet du paddle, pour qu'il puisse avoir des heures de découverte pour des modules, et je pense que c'est envisageable, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas d'association de créer, que le projet n'est pas sorti de terre, c'est complexe, voilà. Et je pense qu'on peut convaincre assez facilement, s'il fait ses comptes, s'il a 40 ou 50 ou 80 gamins qui viennent découvrir, demain ça sera des gens qui feront du paddle, donc voilà. Donc je pense que c'est des choses dont on a déjà parlé. Ça me paraît évident. Voilà.
Y a-t-il d'autres remarques, Alain?
Ah oui, non. Ah non, c'est complètement autonome. Ils n'ont pas l'accès aux toilettes du tennis et de la collectivité publique. Ils gèrent leur entretien, leur nettoyage, voilà.
C'est la partie bleue, dit David, celle-ci là. Donc, ok, très bien. Et j'avais vu des choses, me semble-t-il, plus précises, mais c'est ça. Ok. D'autres questions, remarques? C'est bon, on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? 4, 6 abstentions. 6 abstentions. Et un vote contre. Je pensais que vous aviez levé la main pour vous abstenir. Donc, 5 abstentions, 1 vote contre. Vu. Merci. Louis, alors Marc, ça sera la prochaine fois. Et Louis, tu as la parole.
Merci, monsieur le maire. Alors, c'est donc le projet de délibération, là, ça concerne... ici, alors là, c'est là, on passe à côté.
Celui-là.
C'est celui-là. Alors, budget production d'énergie photovoltaïque, compte administratif 2024, correction d'une erreur matérielle, annule et remplace la délibération du 3 avril 2025. Alors, je ne vais pas mettre dans le budget parce que ça ne va pas chercher très loin. une différence très faible. On a ainsi deux rectifications à faire aujourd'hui. Donc, on vous demande d'approuver ce qu'on ne peut pas laisser comme ça, mais ça n'a quasiment aucune incidence.
OK. Des questions, remarques ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? 6 abstentions. Louis, budget production d'énergie photovoltaïque.
Voilà. La suite. C'est la décision budgétaire modificative numéro 1. Alors, vous voyez, il y a une différence. On a 60 euros, là, c'est indiqué en section d'investissement qu'on change. Et on arrive ainsi à une totale section d'investissement de 0 euros. Et c'est vraiment une rectification de ce qui a été présenté la dernière fois.
Très bien. Qui est pour ? Qui s'abstient ? 6 abstentions. Subvention municipale 2025, modification du montant alloué à l'Office territorial des sports dont parlait Benoît tout à l'heure et attribution d'une subvention à l'association sportive du collège, pardon David, Anne-Marie Boudalier. Pardon.
Alors là, l'Office territorial des sports, l'OTS du Pays de Redon, a sollicité le 1er avril dernier une modification de la répartition de l'enveloppe de subvention municipale 2025 pour intégrer une demande de subvention réceptionnée hors délai de l'association sportive du collège Anne-Marie Boudalier, qui d'habitude est attributaire d'une somme au même titre que les autres associations sportives des établissements d'enseignement redonné. La demande porte sur un montant de 400 euros, là aussi c'est relativement faible, du même niveau que celui de la subvention attribuée en 2024. La répartition des subventions de l'enveloppe OTS pour 2025 ayant eu lieu lors du conseil municipal du 3 avril 2025, il n'était pas possible de prendre en compte cette demande dans l'immédiateté, puisqu'il l'a envoyée très tardivement. Mais il ne s'est quand même pas puni. Considérant la légitimité de la demande de l'association sportive du collège Anne-Marie Boudalier, et au regard de la volonté de ne pas pénaliser les autres associations membres de l'OTS, ni dans la date de versement des subventions, ni dans leur montant initialement attribué, il est proposé de réduire la subvention allouée directement à l'OTS d'un montant de 400 euros pour l'affecter à cette association. Vous avez donc, on vous demande de décider de modifier le montant alloué à l'Office territorial des sports, l'OTS du Pays de Redon, pour l'année 2025, est de retenir une somme de 24 804,97. Si vous reprenez vos documents de la dernière fois, vous verrez qu'il y a bien 400 euros de plus sur cette somme, et décide d'attribuer à l'association sportive du collège Anne-Marie Boudalier d'une subvention de 400 euros pour l'année 2025. Ceci a été présenté d'ailleurs, comme les deux premières, je ne vous l'ai pas dit, mais à la commission finances du 6 mai 2025.
Question ? Remarque ? Qui est pour ? Merci. Louis, ajustement des emplois permanents, mise à jour du tableau des effectifs au 1er juin et au 1er juillet 2025.
Alors, je vais quand même vous lire. Conformément au terme de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Vous avez pu remarquer que cette année, à tous les 3 mois, on vous a donné un relevé indiquant les modifications dans la situation des salariés. Ce tableau est mis à jour à chaque création ou modification de poste et annuellement pour les ajustements faisant suite aux promotions internes, avancements de grade et mouvements de personnel au cours de l'année. C'est quand même important qu'on le fasse aussi, qu'on publie et on le vote rapidement pour que les gens puissent bénéficier éventuellement d'augmentation dans leur salaire. Il convient d'ajouter des postes permanents pour s'adapter à une nouvelle situation, recrutement, mobilité, disponibilité. Alors, vous avez là, menuisier ou autre, je ne vais pas aller. Alors, il n'y a pas de nom. Comme vous savez, nous ne devons pas donner de nom. Par conséquent, on ne peut donner que des titres. Si, donc, vous aviez vraiment envie de savoir qui a eu telle promotion et autres, vous pouvez toujours venir nous voir au service RH et on vous le donnera, mais on ne le donne pas en séance publique. Alors, le tableau, on vous a mis en annexe le tableau des effectifs mis à jour au 1er juillet 2025. Et donc, on vous demande d'adopter les ajustements d'emploi et de mise à jour du tableau des effectifs au 1er juin 2025 et au 1er juillet 2025, tel que présenté ci-dessus.
Merci, Louis. Questions, remarques, c'est bon. Qui est pour ? Qui s'abstient ? 6 abstentions.
Alors, maintenant, création d'emplois permanents, mise à jour, c'est aussi une mise à jour, mais pour des emplois, là, tout à l'heure, ce n'était pas des emplois permanents, là, vous avez, alors, cette mise à jour au 1er septembre 2025. Alors là, c'est pareil, la conformément au terme, c'est un peu ce que je vous ai lu tout à l'heure, et vous avez notamment, vous voyez là, nous avons 6 techniciens informatiques et autres. Donc, si vous voulez avoir plus de détails qu'on ne peut pas vous donner ici, puisqu'on ne peut pas donner les noms, donc ça ne servira pas à grand-chose, et sauf pour la personne, bien entendu. Et donc, si vous avez besoin, vous pouvez venir nous voir. On vous donnera tous les renseignements.
Merci, Louis. Questions ? Remarques ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? 6 abstentions. Création d'emplois non permanents.
Alors maintenant, ce sont les non permanents, c'est-à-dire que vous comprenez bien, les permanents sont ceux qui sont là, qui, sauf s'ils décident de partir, eh bien, ils partent, mais autrement, ce sont les non permanents. Les non permanents, donc, notamment les contrats de projet. Ça aussi, c'est une formule qui a été créée, comme vous le savez, il y a déjà quelques années, et qui marche bien. Alors, on vous dit, c'est la même chose, je ne vais pas vous répéter, on a la même chose, si vous voulez donc des renseignements, mais vous voyez, il y a quand même pas mal de changements, ça veut dire qu'on cherche à ce que les gens fassent des formations, notamment, qu'ils apprennent le plus possible, et s'ils veulent en particulier obtenir des grades supérieurs. Alors, il est évident qu'il y a pour les grades, eh bien, nous pouvons attribuer ici, décider d'attribuer une promotion. Seulement, il faut qu'elle soit agréée par le centre de gestion départemental qui est à Rennes. Ce qui fait que, on m'interroge, quelquefois, on dit, mais j'ai pas obtenu, alors il faut attendre le tirage suivant, parce que il y a quelques problèmes, mais c'est vrai que c'est un peu déroutant pour ceux qui ont travaillé, préparé, et qui ont obtenu, on est d'accord, pour qu'ils aient cette promotion, et ils ne l'ont pas. Mais c'est comme ça.
Monsieur le maire. Merci, Louis. Y a-t-il des questions ou remarques sur les contrats de projet, notamment ? Donc, qui est pour ? Qui s'abstient ? 6 abstentions. Ajustement du forfait mobilité durable.
Alors là, on me l'a donné, je n'ai pas pu l'utiliser, il y a une modification, mais toute petite, c'est-à-dire qu'il se trouve à la fin du document, on vous demande d'autoriser l'ajustement à compter du 1er juillet 2025, il me semble, ça avait été indiqué le 1er juin. Donc, ça, c'est ce qui est bon, c'est au 1er juillet 2025. Alors là, les mobilités durables. Je vais quand même vous lire un peu, sinon on me dirait que je ne vous ai pas lu grand-chose. Par délibération 2023-112 du 14 décembre 2023, l'Assemblée délibérante a instauré le forfait mobilité, je pense que vous vous en rappelez, pour les agents de la collectivité. L'objectif est de limiter l'impact environnemental et d'inciter les pratiques ayant un bénéfice sur la santé physique et mentale des agents dans les déplacements, domicile, travail. Ça rejoint un peu le sport. Donc, il couvre les déplacements réalisés entre sa résidence habituelle et son lieu de travail qui sont réalisés, soit avec son propre vélo, y compris à assistance électrique, ou soit avec un engin personnel de déplacement motorisé non thermique, comme les trottinettes, les gyropodes, sous réserve que le trajet soit d'au moins 1 km, soit en tant que conducteur ou passager d'un véhicule partagé covoiturage, sous réserve que le trajet soit d'au moins 3 km. Le forfait mobilité a été calculé selon une base forfaitaire correspondant à des paliers de nombre de jours d'utilisation ou de partage du véhicule, 60 euros entre 47 et 93 jours en train et 2 jours par semaine, 170 euros entre 94 et 140 jours entre 2 et 3 jours par semaine, 300 euros pour 140 et 1 jour de plus ou plus de 3 jours par semaine. Il est modulé à la durée de présence dans l'année au titre de laquelle il est versé. Les deux ateliers de diagnostic et réparation de l'état de votre vélo ont été proposés le mercredi 14 février 2024. 5 agents y ont participé. Donc ça marche quand même, c'est un début. Un temps de formation et information sur la réglementation théorique d'une durée de 2 heures et une remise en selle pratique en sécurité également d'une durée de 2 heures a été organisée. 3 agents y ont participé. Alors, vous avez le bilan. Eh bien, le bilan 2004. 29 agents ont sollicité le versement du forfait mobilité, ce qui est quand même bien. 25 agents ville et 4 agents EHPAD. 6 agents en covoiturage pour 16 500 km, principalement 2 et 3 quarts, 3 jours par semaine. 23 agents en vélo pour 20 000 km, principalement plus de 3 jours par semaine, et versement sur les rémunérations de février 2025 de 5 285 euros. Pour rappel, le bénéfice environnemental majeur est sur le covoiturage et le bénéfice santé physique et mentale est sur la pratique du vélo. Le constat est que les bénéficiaires sont majoritairement des agents déjà sensibilisés et déjà actifs sur le vélo et que le covoiturage est peu développé. Enfin, des refus se sont imposés pour quelques agents en raison de la distance domicile-travail inférieure au seuil. Aussi, il convient de faire évoluer le dispositif pour mieux répondre aux objectifs et attirer de nouveaux agents, favoriser le covoiturage et prendre en compte les agents venant à pied. Pour plus de communication sur le dispositif et sur les moyens pour le mettre en œuvre à titre individuel pour le covoiturage, par une adaptation des montants et des tranches pour plus de valorisation sur la première tranche, 200 euros entre 50 et 100 jours, 200 euros entre 101 et 200 jours, et après 300 euros pour 201 jours ou plus de 4 jours par semaine. Pour l'instauration d'une tranche déplacement à pied unique de 80 euros pour plus de 201 jours entre leur domicile et le travail sans minimum et pas de multimodal. Il pourrait être proposé un atelier de remise en état du vélo et un temps de formation et information sur la réglementation théorique pour les nouveaux entrants dans le dispositif dès lors que ce dispositif sont largement demandés par les agents, au moins 70% de remplissage. Alors, on vous le demande donc d'autoriser l'ajustement à compter du 1er juillet du forfait mobilité durable au bénéfice des agents de la collectivité dès lors qu'ils certifient sur l'honneur réaliser leur trajet domicile-travail avec leur vélo personnel en covoiturage ou à pied. Oui, c'est quand même important parce que on avait toujours des inquiétudes, c'est vrai, on est lié là à la circulation, qui n'est pas toujours facile, surtout au moment où arrivent les salariés et au moment où ils repartent. Mais je crois que nous avons affaire à des gens qui, vous voyez, se forment, étudient, et puis, je veux dire qu'ils obéissent, non, tout le monde obéit, mais ça dépend comment la façon dont on conduit, et là, ça fonctionne bien. Voilà. Donc, vous notez bien la différence hein, que je vous ai indiquée, la rectification. Bien, monsieur le maire. Je ne sais pas s'il y a des questions.
Y a-t-il des questions, effectivement?
Oui. Je vais me permettre de faire un... Enfin, de parler du défi Mobi, puisque vous parlez effectivement de l'évolution des modes de déplacement pour venir à la mairie. Ça me donne à penser deux choses. Un, on pourrait dès à présent faire un calcul du nombre de kilos carbone qu'on mobilise, l'ensemble des agents, des élus, lorsqu'ils se déplacent pour venir en mairie. Pour ensuite voir comment évolue ce nombre de kilos carbone en fonction de l'évolution de nos modes de déplacement. Ce que vous avez décrit, donc il y a un certain nombre d'agents qui ont fait évoluer leur mode de déplacement. Si on avait calculé ce nombre de kilos de CO2 au préalable, on aurait pu déjà voir que ça évoluait positivement. Ça peut être un outil, en tout cas, pour inciter à moins produire de carbone. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse aussi dans les écoles, les collèges, les lycées, mais enfin, parce qu'une fois qu'on a le chiffre, ça donne aussi des objectifs. Et puis juste une information, vous savez que le défi Mobi est relancé cette année, c'est en partenariat avec Redon Agglomération, la journée de lancement ça sera le 24 mai à Fégréac, et c'était assez orienté vélo les années précédentes, là l'objectif c'est de mettre en avant tous les modes de déplacement doux et alternatifs à la voiture, donc c'est aussi bien les transports collectifs, le covoiturage, etc. Voilà, je vous incite à participer. Je vous remercie.
Merci.
Bon, Monsieur Laridon, on note bien vos remarques, mais de toute façon, on va faire au mieux, mais c'est un début, hein, ce qui se passe, déroule assez bien. Bien.
D'autres questions, remarques? C'est bon, on passe. Enfin, on passe. On vote d'abord, avant de passer. Comment, mon cher?
Oui, on vote.
Ah, décidément, j'ai des problèmes avec le micro.
On se... Bien, il faut voter.
Oui. Qui est pour? Merci. Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie de cette belle unanimité. C'est fini pour toi, mon cher Louis. Je vais passer la parole à Anne-Cécile Hurtel.